Liturgie de la parole de ce mercredi 12 novembre 2025, mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire, année impaire. Écoutez, ô roi, et comprenez, afin que vous appreniez la sagesse. Sagesse 6 de 1 à 11. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Josaphat, évêque et martyr ukrainien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, réveille en ton Église l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permet qu'avec l'appui de sa prière et fortifié par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 17e chapitre du 11e au 19e verset. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Le 9 autres, où sont-ils? Il ne s'en est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, Saint Josaphat, évêque et martyr ukrainien, 16e, 17e siècle, a beaucoup travaillé pour l'unité entre catholiques et orthodoxes. Et c'est au nom de cette unité qu'il va mourir, martyr, lynché, tué, jeté dans l'eau. Saint Josaphat croyait à l'unité et y travaillait. Unité entre les chrétiens, spécialement entre catholiques et orthodoxes. Il disait: Vous me haïssez, mais moi, je vous porte dans mon cœur. Et je suis content. Je serai content de mourir pour vous, disait-il à ceux qui les haïssaient. Je serai content de mourir pour vous. Vous me haïssez, moi, je vous porte dans mon cœur et je serai content de mourir pour vous. C'est la sagesse de Dieu, la sagesse chrétienne, c'est cela. Vivre pour que soient promis les valeurs, vivre pour la gloire de Dieu, vivre pour le bien de tous, pour le bien des autres, se sacrifier pour le bien des autres. C'est de cette sagesse-là qu'il est question dans la première lecture d'aujourd'hui. Sagesse 6 de 1 à 11. Les livres de la sagesse s'adressent aux différentes catégories des personnes. Dès l'époque, nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs dominent encore le monde. Les Romains sont déjà là. Mais la culture grecque est encore dominante. On est dans un contexte des cultures, dirait-on, gréco-romaines. Celui qui a écrit la sagesse essaye d'aider les Juifs à rester fidèles à la sagesse biblique, à la sagesse de l'Ancien Testament. Malgré la domination du monde par les Grecs et par les Romains, restez fidèles à votre identité religieuse. C'est ça le but du livre de la sagesse. Hier, on entendait comment l'auteur de ces livres s'adressait aux populations victimes, victimes de l'intolérance religieuse. Il y avait beaucoup de martyrs. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Josaphat, un martyr. Mais à l'époque déjà, il y avait des martyrs juifs. Alors, il fallait édifier, il fallait exhorter les victimes de l'intolérance religieuse de l'époque pour qu'ils demeurent fidèles à Dieu. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Ceux-là qui meurent à cause de leur foi, à cause de leur religion, Dieu ne peut pas les oublier. C'était le message d'hier. Aujourd'hui, l'auteur sacré, l'auteur du livre La Sagesse s'adresse maintenant à ses bourreaux, aux bourreaux, c'est-à-dire à ceux qui dirigent le monde dans ces moments-là, et qui étaient à la base de la persécution des Juifs, persécution des croyants. Il s'adresse à eux. Vous qui jugez le monde, les juges du monde, c'est-à-dire les souverains de l'époque, souverains grecs, souverains romains, attention, vous êtes des puissants et Dieu vous jugera avec puissance. Dieu vous jugera avec puissance. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste. Il nous donne le temps de nous convertir. Il nous donne des opportunités pour notre conversion. En ce moment, vous suivez cette petite réflexion. C'est une opportunité qui nous est donnée, qui vous est donnée. Écoutez la parole de Dieu. Venez d'écouter l'évangile. C'est pour votre conversion, pour notre conversion. Dieu est miséricordieux. Il nous donne toutes les opportunités possibles. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup, beaucoup de méditations. Nous écoutons la parole de Dieu, la méditation des prêtres à travers les réseaux sociaux, dans vos églises respectives, dans des médias catholiques comme Radio Marie et autres. Ce sont des opportunités que Dieu nous donne parce qu'il est miséricordieux. Si nous ne saisissons pas ces opportunités, à la fin des temps, c'est le jugement. Voilà pourquoi dans la première lecture, c'est dit clairement, vous le puissant, vous serez jugé avec puissance. C'est-à-dire ceux qui ont entre leurs mains les destins des autres, ceux qui sont les juges du monde, comme on les appelle, eh bien, si vous ne vous occupez pas des autres, si vous ne travaillez pas pour le bien des autres, à la fin des temps, vous serez jugé avec puissance. Mais qui sont ceux-là? C'est vous et moi. Chacun de nous, quelque part, peut changer la vie des autres. Vous pouvez changer la vie de ceux qui sont autour de vous, en faisant, dans la mesure du possible, ce que vous pouvez pour leur bien. Vous pouvez leur apporter le sourire, le bonheur, la joie, en faisant ce que vous pouvez. Chacun de nous, quelque part, peut le faire. Et si vous ne le faites pas, à la fin des temps, vous serez jugé avec puissance, dit le Seigneur dans la première lecture. Mais avant la fin des temps, notre Dieu est miséricordieux. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il apparaît comme tel un Dieu plein de miséricorde. Jésus est en route vers Jérusalem. Il se trouve entre la Samarie et la Galilée. 10 lépreux viennent vers lui. C'est curieux, parmi ces lépreux, il y a un Samaritain. Peut-être même quelques Samaritains et puis des Juifs. Deux peuples qui ne s'entendaient pas à l'époque, Samaritains et Juifs, issus de même souche, sont tous des fils d'Abraham. Les Samaritains ont pris un autre itinéraire. Ils sont Juifs mais mélangés aux Assyriens. Et d'autres Juifs les considèrent comme étant issus d'une race qui n'est pas pure, parce que c'est juif et assyrien. Ce mélange-là a donné lieu au peuple samaritain. Et juifs se considèrent comme étant de la race pure, hébreux, fils d'hébreux. Ils ne s'entendaient pas. Mais la souffrance les a unis. Dans ce groupe de lépreux, il y a des juifs et des samaritains. Ils ne s'entendent pas, mais la souffrance les a unis. Parfois, la souffrance nous unit avec les autres, avec ceux avec qui peut-être on ne pourrait pas se mettre ensemble si nous n'étions pas dans cette situation douloureuse, malheureuse. Je pense notamment à ceux qui nous suivent à partir des prisons. Vous vous retrouvez en prison avec des gens qui, en dehors de la prison, n'auraient jamais pu vous approcher. Vous ne serez jamais ensemble avec eux, mais maintenant que vous êtes en prison, vous voici ensemble. C'est comme ce groupe de lépreux où il y a juifs et samaritains ensemble, alors que, en principe, ils ne s'entendent pas encore à l'hôpital. Vous allez vous retrouver à côté de votre lit avec quelqu'un et qui, peut-être, si vous n'étiez pas malade, ne vous aurait jamais approché. Vous ne serez jamais ensemble. La souffrance unit. Parfois, il faut saisir cela comme opportunité. Opportunité pour cultiver la fraternité avec ces personnes qui étaient peut-être loin de vous, mais maintenant vous avez l'opportunité de les approcher. Vous avez l'opportunité de vivre avec eux, unis dans la souffrance et par la souffrance. Ils se tournent vers Jésus. Et les Samaritains et les Juifs se tournent vers Jésus. Ils n'ont pas de choix. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jésus les guérit par la parole. La parole guérit. Et Jésus ne va pas les toucher. Mais il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Cette parole de Jésus est source de guérison pour eux. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu joue aussi une fonction thérapeutique, salutaire. C'est une parole qui guérit, une parole qui sauve. Jésus n'a pas touché le lépreux. Mais il est guéri par la parole. Allez vous montrer au prêtre. Et sur la route, ils sont purifiés. Les autres disparaissent. On ne parlera plus d'eux. On parlera de celui qui a cherché non seulement la guérison, mais aussi le salut. Il est revenu sur ses pas. L'expression revient deux fois dans cet évangile. Il revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Il est revenu pour glorifier Dieu en remerciant Jésus. Il tombe tête contre terre au pied de Jésus, en train de l'adorer, proskuneo. Jésus lui-même dira, mais parmi eux, il n'y a que cet étranger, un samaritain, qui est revenu sur ses pas. Revenir sur ses pas. Il était parti comme lépreux. En cours de route, il est purifié, il est guéri, et il revient sur ses pas. Il n'a pas oublié d'où il est venu. Il n'a pas oublié ce qu'il était. Il souffrait, il était malade. Il y a des situations difficiles qu'on peut connaître dans la vie. Et après avoir été délivré, après avoir reçu des grâces, vous êtes sorti de l'état dans lequel vous vous trouviez, peut-être de la prison. Vous êtes sorti de la prison, vous êtes sorti de l'hôpital. Mais pas seulement les malades et les prisonniers. Chacun de nous peut traverser des moments difficiles. Et après, grâce à Dieu, vous vous en êtes sorti. Est-ce que vous avez oublié ce que vous étiez? Vous avez oublié cette souffrance? Vous avez oublié cette situation difficile dans laquelle vous vous trouviez? Revenir sur ces pas, c'est cela. N'oubliez pas votre passé. N'oubliez pas que vous aussi, vous aviez souffert. Lorsque quelqu'un est en difficulté et demande votre aide, souvenez-vous de votre passé. Vous aussi, peut-être dans votre vie, vous avez eu à souffrir. Ne l'oubliez pas. Revenir sur ses pas. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas que vous étiez aussi pauvre. Et peut-être vous demandiez aux autres, comme ceux qui vous demandent aujourd'hui. Revenir sur ses pas. Comme fait ce Samaritain guéri. Il n'a pas oublié son passé. Il est revenu sur ses pas. Il est revenu auprès de Jésus. Il s'est souvenu qu'il était lépreux. Et donc, éloigné de la société, les lépreux souffraient énormément. Il y avait la maladie physique, mais aussi, il y avait aussi la souffrance morale. La société leur imposait des contraintes incroyables. Ils devaient se couvrir le corps et crier à tout moment impur lorsque les gens les approchaient sans le savoir, pour que ces gens ne soient pas contaminés. Les lépreux criaient impur, impur. Comme qui dirait « malade, malade » pour que les passants ne puissent pas s'approcher d'eux. C'était ça leur situation. C'est le preux, guéri, n'a pas oublié qu'il a vécu tout ça. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas ce que vous étiez, ce que vous avez enduré comme épreuve. Aujourd'hui, ça va bien dans votre vie, mais n'oubliez pas le passé. Rappelez-vous de cela, remerciez Dieu, rendez gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, mais surtout, surtout, Aidez ceux qui sont en difficulté, parce que vous aussi vous étiez en difficulté. Aujourd'hui, ceux de Kairos pour ces 10 lépreux. Nous ne savons pas combien d'années ils ont souffert, mais il y a eu un jour où cette souffrance a pris fin. Votre souffrance aussi prendra fin. La maladie, la prison, l'épreuve que vous endurez, la souffrance, la pauvreté, la misère. Vous êtes victime de la guerre dans l'est de notre pays. Ça passera aussi. Il faut y croire, il faut espérer. Un jour, ça finira. Comme pour ces lépreux, un jour, c'était fini. Ils ont rencontré Jésus, c'était la fin de l'épreuve pour eux. Un jour aussi, il y aura pour vous les kairos, c'est-à-dire la fin de l'épreuve. Et nous voulons que ça soit aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
De la lignée du grand roi David. Elle eut une histoire magnifique, visitée par le Saint-Esprit. Tu as trouvé une grâce unique, tu enfanteras le Messie que tu appelleras Jésus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, et s'accomplit la prophétie qu'une vierge enfantera, et elle s'appelle Marie. Oh Maria! Marie Élisabeth, elle portait Jean-Baptiste, celui qui devait baliser le chemin pour Yeshua. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni, dit Élisabeth. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, répondit Marie. Et Joseph, la sachant enceinte, projetait de la répudier secrètement. Et l'ange lui apparut, lui expliqua le vénement, l'avènement du Christ, le Sauveur. Comme Maria, soyez comme Marie. Selon ta volonté, Seigneur.